La bande passante.
La bande passante.
Laurence Pierre.
1977-2017, 40 ans se sont écoulés depuis les premiers vagissements des Sex Pistols, leur irrespect notoire, leur tragédie personnelle, l'exploitation de leur image et un slogan qui paradoxalement a fait son chemin, nos futurs. 1977-2017, 40 ans, et malgré toute propension à ne pas vouloir s'inscrire dans le temps, dans un mouvement, dans une renaissance, dans une reconnaissance, voilà bien 40 années pour contempler le punk et l'épingler désormais au panthéon des plus grands mouvements musicaux du XXe siècle. Alors ce soir, soyons fous, un peu anarchistes, antisociales et utopiques, antifascistes et mohicans, radicales et sans complexe, skaters ou hardcore, un grand folklore de la zone mondiale en quelque sorte. Bonsoir Christian Eudeline.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et critique rock, déjà auteur de 100 albums cultes du hard rock au metal, Black Music, 100 albums cultes, Nos années punk, c'était en 2002. Vous êtes auteur également de nombreuses biographies, parmi celles-ci on peut citer Michel Polnareff, Little Bob ou Daniel Darc. Et aujourd'hui, Punk's Not Dead, 100 albums cultes, superbe ouvrage au format 33 tours, à quelques centimètres près, préfacé par Ty Luke, chanteur de LSD, La Souris Déglinguée, et à chaque page de très belles reproductions des pochettes 33 tours, ça tombe bien, on adore parler de l'objet disque, ce sont des vraies pochettes de vos vrais disques, j'ai l'impression, dont certaines sont dédicacées par les artistes.
Oui, c'est un petit clin d'œil, je crois qu'on est tous fétichistes, les amateurs de musique, on aime bien rencontrer des personnes qu'on a beaucoup écoutées, et je me permets tout de suite de rentrer dans le vif du sujet parce que vous avez dit que le No Future appelait au fait qu'il n'y a pas de lendemain. Mais le No Future des Sex Pistols, c'était une réflexion sur la situation politique et économique sociale en 76-77 en Angleterre. C'était pas une sorte de profession de foi, c'était pas qu'ils voulaient pas de lendemain et pas vieillir. Il y a une grande incompréhension sur ce mot, sur ces deux mots, No Future.
77, premier album des Sex Pistols. Margaret Thatcher n'est pas encore Premier ministre, mais elle fait beaucoup parler d'elle.
Oui,
déjà.
Mais on parle de cette époque, il y a beaucoup de chômage en Angleterre. Et les Sex Pistols sont anglais. Et en fait, c'est cette société anglaise qu'ils décrivent. Voilà. C'était pas l'avenir de leur mouvement. Hein.
100 albums cultes proposés de manière chronologique, des Seeds en avril 1966 au groupe Parquet Court en 2014. On n'est donc pas cantonné du tout aux années de la fin des années 70 qui ont vu débouler les premiers albums du Clash ou de Sex Pistols. Il y a eu un avant et il y a eu un après.
Voilà, ça c'est l'idée première de mon bouquin. J'essaye de raconter une histoire et j'essaye d'abord de dire qu'on ne va pas se limiter au punk de 77 parce que le punk, il y a une histoire avant et il y a une histoire après. Beaucoup de groupes d'aujourd'hui se réclament du punk. On peut prendre Sohan et puis on peut prendre les Parquet Court. Il y a un esprit punk. On peut prendre aussi dans la mode et dans l'écriture, dans les romanciers. Comme Virginie Despentes aujourd'hui, c'est forcément quelqu'un qui vient de cette culture punk. Bon. Et le punk, il commence avant. Alors, je le fais commencer aux Seeds parce qu'il y a un phénomène dans les années 60 qui est une réponse aux Beatles. Il y a une invasion des Beatles qui est un groupe anglais aux États-Unis. On a appelé ça la Beatlemania. Et il y a plein de petits groupes qui vont commencer à répéter dans leur garage. On a appelé ça le rock garage, qui font du rock, qui se laissent pousser un peu les cheveux et qui font une musique très énergique, très rentre-dedans. Les Seeds avaient un petit peu la saveur du punk, mais ils étaient bien, bien trop en avant. Ensuite, je passe au Velvet Underground, qui est un groupe culte parce qu'il va chanter la noirceur de la ville en opposition avec la douceur des plages californiennes qu'on a chez les Beach Boys, par exemple. Et ensuite, je passe aux Stooges, qui est beaucoup plus important parce que les Stooges en est en 69. Et il faut bien comprendre que Iggy Pop est le premier à se jeter dans le public, par exemple. En fait, il a raconté dans des bios qu'il savait pas quoi faire sur scène. Ils avaient pas vraiment de chansons, mais il voulait faire réagir le public. Et puis, il s'est mis à sauter dedans. Mais il raconte aussi que très souvent, les gens s'écartaient au début. Les Stooges, il y a une deuxième chose qui est très très importante et qui est pré-punk, hein, parce que la danse des punks qui se lançait de la scène, c'est voilà, ça n'est là. Et l'autre chose, c'est que les punks sont les premiers, Iggy Pop est le premier à poser avec un jean déchiré. Ça paraît stupide, mais c'est l'histoire.
On ne sera pas des puristes pour autant ce soir, encore moins nostalgiques, juste envie de se souvenir, de se faire plaisir, aller vite et le dire haut et fort. Bonsoir à tous les amis en compagnie de Christian Eudeline ce soir et bienvenue dans cette bande passante résolument anticonformiste ce soir.
Street, you're burning your houses. Well, I-
L'album s'appelle The Crack et il sort en 1979 et Babylon's Burning est le premier titre à ouvrir cet album de The Roots. Un album aussi puissant que le groupe fut éphémère, Christian Hudlin.
Oui, il n'y a qu'un seul album, c'est celui-là. On va préciser tout de suite que le chanteur est mort d'une overdose, bien que dans une des chansons du disque, il chante une chanson anti-drogue. Fallait peut-être pas. Alors c'est un disque très important, c'était peut-être pas évident à capter pour ceux qui n'ont pas compris les paroles, mais l'une des interrogations de la chanson c'est pourquoi la montée du National Front en 78-79 en Angleterre. Donc c'était un groupe très engagé, c'était un groupe qui est né suite au Clash. Alors là c'est pas la chanson la plus réguisante qui flirte le plus avec le reggae.
Il y a des beaux titres de reggae dans
cet album.
Voilà,
il y a des beaux titres de reggae. Parce que le Clash a été, c'est une des choses qu'il a apporté, c'est il a dit écoutez un peu de reggae et essayez de saupoudrer votre musique de reggae, je crois qu'on va en écouter un petit peu tout à l'heure. Donc les Roots, ils ont posé un regard comme ça sur la société en Angleterre et en se posant des questions. Voilà, en disant, ben ouais, pourquoi vous votez à droite ? C'est une thématique qui est très présente hein, dans le punk. On va situer à gauche tout de suite, donc. Mm-hmm. Je sais pas si ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui. Voilà, moi c'est un disque que je ne saurais que conseiller. La pochette est très très célèbre parce qu'elle a été dessinée par un peintre qui, 40 ans après, dans les musées, qui s'appelle John E. Howard.
Une pochette à 1000 dollars, racontez-vous.
Voilà. Alors, parce qu'en fait, voilà, donc le peintre est devenu très collectionné. Il est dans les musées. Sur cette peinture, il y a le groupe, les Roots, mais il y a aussi...
Qui sont assis dans un canapé rouge.
Il y a aussi
Et puis
Jimi
autour
Hendrix.
D'eux, voilà, il y a toute une fête, une partie, avec des gens voilà. très élégants qui boivent, qui se draguent, etc. Et dans cette pochette, il y a beaucoup, beaucoup, effectivement, de personnages célèbres.
Et voilà, il y a des personnages célèbres, Cass Richard, il y a les Damned, Jimmy Purcell du Jam 69... Et cette pochette, l'original, l'œuvre originale a été mise en vente il y a une trentaine d'années et c'est un collectionneur d'art punk, on peut pas appeler ça comme autrement, Henry Rollins, ce chanteur des Black Flag, qui l'a acheté 1000 dollars et qui l'a dans sa collection. Alors, on peut être très très fier d'être français pour une fois parce que 12 degrés 5 est un groupe français et le peintre John E. Howard a dessiné une seule autre pochette. Une seule autre, c'est une pochette de 12 degrés 5.
No!
Christian Eudeline, dans ce gros livre 100 albums cultes, vous écrivez The Clash, album qui sort en avril 1977, est un album séminal du mouvement punk, un vrai classique malgré sa crudité, un monument en ce disque représente une étape importante dans cette révolution culturelle. Phrases, slogans, voix criarde, guitare qui frappe juste, mélange de véhémence et de riffs reggae, ce disque est un tourbillon, une fulgurance de l'évidence. Est-ce que cet album du Clash est vraiment le manifeste de cette révolution musicale d'après vous? Et pour quelle raison?
Je trouve que 40 ans après, on a encore des frissons hein, quand on l'entend. C'est... Et puis on peut pas s'empêcher de chantonner. Je vais dire aux auditeurs que vous étiez en train de chantonner.
C'est vrai.
Alors c'est ce qui est amusant.
Après, je chantonnais c'est de... Junior Mervyn en même temps.
C'est voilà. Bon. Alors c'est une reprise du Clash. Vous n'avez pas passé le morceau le plus violent. Vous avez passé le morceau le plus reggae, qui est très mélodique, qui est très très beau. Mais en même temps, on voit bien que la guitare est un petit peu trop crade pour être du pur reggae. Alors petite anecdote que les auditeurs essaieront de réécouter via le disque, hein, qui vont pouvoir se rejouer, c'est que en fait, c'est une reprise de Junior Mervyn, un classique du Rocksteady, mais en introduction, Joe Strummer cite une phrase empruntée aux Ramones. En fait, ils disent « They're going through a tight wind », et en fait, c'est un morceau de... C'est une petite phrase extraite de Blitzkrieg Bop des Ramones, parce que les Ramones était l'une des influences du Clash, et le Clash adorait les Ramones et il se renvoyait l'ascenseur. Donc c'est bien parce qu'on est en 77 et on voit tout de suite que c'est une grande internationale. Le mouvement punk est né en même temps en Angleterre, aux États-Unis et un petit peu en France aussi.
Et pourquoi le punk aime-t-il le reggae?
Alors, je pense que c'était le côté politique engagé, déjà, la première chose. Et ensuite, c'est parce que bah, je crois que la Jamaïque a une grande histoire commune avec l'Angleterre et que donc beaucoup de Jamaïcains ont émigré ou immigré en Angleterre et que Joe Strummer et puis beaucoup de Londoniens ont grandi avec cette culture via les copains de classe et tout ça. Donc l'un des pays au monde où le ska, le rocksteady et le reggae est d'abord arrivé, c'est l'Angleterre. Bob Marley a d'abord joué en Angleterre. Donc c'est quelque chose de très très important dans
Punky
la culture
reggae
musicale.
Punky Reggae Party avait chanté voilà. Bob Marley. En juin 1981, The Clash est en tournée aux États-Unis et ce sont les Américains Bad Brains qui ouvrent leur concert à New York. Un mot sur Bad Brains, Christian.
C'est d'abord une chanson des Ramones. Là, on n'en sort pas. C'est-à-dire que sur le troisième album des Ramones, Road to Ruin, il y a une chanson qui s'appelle Bad Brains. Et alors les Bad Brains, c'est trois rastas qui font du jazz rock à la base. Déjà, c'est assez improbable. Après, ils se mettent au reggae. Et puis un jour, ils entendent l'album des Sex Pistols et c'est une grande claque. Et dit, entre nos morceaux de reggae, on va faire des morceaux beaucoup plus violents. C'est un peu plus ce qu'on appelle le hardcore. Alors le morceau qu'on va entendre, je crois que c'est du pur reggae parce qu'on n'effraie pas les auditeurs, mais le reste des Bad Brains, c'est du pur hardcore. C'est un concentré d'énergie et c'est vraiment, il faut découvrir.
I and I Survive, 1982, premier véritable album des Américains Bad Brains, peut-être le groupe punk le plus rapide qu'on ait jamais entendu par ailleurs, et qui se passionne pour le reggae un peu plus tard grâce au Clash album Rock for Light, devenu un classique, une référence par exemple pour Kurt Cobain. Nos futurs Punks Not Dead, Jaune et Rose Fluo, les 100 albums cultes par Christian Eudeline dans toutes les bonnes librairies depuis quelques jours, un gros livre qu'on écoute encore dans la deuxième partie de cette bande passante, après 3 minutes. Sur l'état du monde. Bonjour, c'est...
Musique. La bande passante. Musique. Laurence Pierre.
Qu'il soit hardcore de la côte ouest des États-Unis, punk deuxième vague comme Crass, furieux comme The Cramps, millionnaire du disque comme Offspring ou dernière génération comme The Libertines, ils sont punk ou crétins, c'est selon, pour respecter la traduction, ou encore idiots et laissés pour compte. Ils ont mis leur vie en jeu, dessiné leur nom avec du sang, transformant l'art en performance, violence extrême pour brandir son désaccord avec la société. Christian Eudeline, rebonsoir.
Bonsoir.
Répertorier 100 albums, punk n'est pas une mince affaire, je pense. Comment avez-vous fait votre choix? J'imagine que vous avez traversé de grands moments de solitude parce que beaucoup de personnes auraient fait peut-être un choix différent. Ainsi, pourquoi le Velvet figure parmi ces 100 albums? On en parlait tout à l'heure, on peut les assimiler aussi au début du psychédélisme. Pourquoi il n'y a pas Nirvana ou Nina Hagen? Comment avez-vous fait, comment avez-vous travaillé?
C'est un choix sérieux. Non, déjà c'est une passion, donc c'est pas vraiment, c'est pas compliqué de choisir des albums qu'on aime et qu'on écoute régulièrement depuis de nombreuses années. Et les gens qui me disent « il n'y a pas ça, il n'y a pas ça », moi j'ai toujours des arguments. Nirvana, c'est plutôt du heavy metal. Même si les punks ont adhéré, ce n'est pas du punk rock. Même si Nevermind the Bollocks et l'album des Nirvana s'appelle Nevermind, et c'est un évident clin d'œil. Mais ce n'est pas de la musique punk rock.
Et le grunge, ce ne sont pas les
c'est
enfants
un petit
du,
enfant,
du punk rock.
C'est un
d'accord.
Enfant du... Voilà. Nina Hagen, c'est trop rock classique, par exemple. Pour prendre les exemples que vous avez pris. Hein. Nina Hagen, ils sont plus dans une logique stonienne, on va dire. C'est-à-dire que le punk rock n'était pas encore arrivé jusqu'en Allemagne à cette époque-là, pour grossir le trait. Et le Velvet Underground n'est surtout pas du psychédélisme. C'est pas parce qu'ils prennent de la dope qu'ils vont être assimilés au psychédélisme. Le psychédélisme, c'est le voyage coloré. Le Velvet Underground, me semble-t-il, tout est en noir et blanc. Donc, sur chacun des groupes, je les défends bec et ongle. Et sur beaucoup de groupes, il n'y a pas de problème. Les Sex Pistols, ils ont fait un album. Les Ruts, on l'a vu, ils ont fait un album. Sur le reste, c'est une pratique. Et puis, j'ai quand même rencontré un artiste sur deux. C'est-à-dire que j'ai une toute petite pratique de la chose.
Donc vous connaissez parfaitement la philosophie du punk.
Je peux me permettre de conseiller le meilleur album des Ramones, le meilleur album de Iggy Pop, le meilleur album des Stooges. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est que je peux me permettre de dire ça, ce disque-là, il va te plaire si t'aimes ça. Et voilà, en guise d'introduction, commence par ce disque-là.
Une petite poignée d'albums cultes du mouvement punk sur une grosse centaine dans la bande passante ce soir. Rebonsoir à tous les amis.
And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll.
Guns and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. And drugs and rock and roll. Sex 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 and drugs and rock and roll.
Sex and Drugs and Rock and Roll sur premier album de Yann Durie, le papa de Baxter Durie, album New Boots and Panties qui sort en 1977. C'est une chanson qui est devenue un véritable hymne punk, alors que vous racontez, Christian Eudlin, que Yann Durie n'a jamais écrit cette chanson pour célébrer le sexe, la drogue et le rock and roll. Il voulait juste se poser une question. Est-on sûr que le sexe, la drogue et le rock and roll soient indispensables pour mener une bonne existence? Il raconte qu'il avoue avoir été quelque peu dépassé par les événements et l'ampleur qu'a pris cette chanson.
C'est un peu le but des petits textes que je propose en face des disques, c'est que j'essaye de raconter l'histoire de ces chansons et, en passant par le prisme de ces albums. Et encore plus, j'imagine, pour des non-anglophones ou des gens qui comprennent pas toujours très très bien l'anglais, c'est fascinant de savoir que c'est pas une ode, c'est pas une célébration de sexe, drugs and rock and roll, c'est vraiment un questionnement, quoi. Yann Durie était connu pour deux choses, sa voix rock, hein, R-A-U-K-E, son caractère un peu compliqué,
difficile.
Voilà, mais aussi et surtout sa description de la société anglaise. Et ce premier album, même si c'est pas très très violent, parce qu'il y a des gens qui pensent que la musique punk, elle doit forcément agresser, on est vraiment en 77, on est vraiment, c'est de la musique que les punks écoutaient, quoi.
Mm-hmm. Voilà. Et quand il chante une chanson comme Blockheads, qui signifie les imbéciles, sur cet album New Boots and Panties,
voilà.
De qui parle-t-il?
Je pense
qu'il va devenir Yann voilà. Durie and the Blockheads.
Voilà, c'est ça. En fait, son groupe n'avait pas de nom. C'est le manager qui va dire, qui va les vendre un jour sous cette dénomination-là, Yann Durie et les Blockheads. Yann Durie était un petit peu prétentieux et un petit peu égocentrique. Et ne pas payer les musiciens, par exemple, c'était pas très grave. Dans son groupe précédent, Kilburn and the High Road, il y a le guitariste qui est parti avec le matos et qui va faire le groupe qui s'appelle 999, pour donner un exemple. Et pour voir aussi qu'il y a un lien entre tous ces albums. Yann Durie, donc, était un petit peu prétentieux et les Blockheads, c'était un peu son groupe il les considérait pas, quoi. C'était vraiment lui, sa plume, son œuvre et puis sa musique. Le reste, il s'en foutait un peu. Par contre, il avait un énorme respect du public. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est quelqu'un qui se donnait pleinement à vous pendant une demi-heure, une heure, comme ça, vous racontez volontiers sa vie. Mais ça devait pas être très facile de travailler avec lui. N'empêche que l'œuvre est magnifique.
Et une fois de plus, l'œuvre est magnifique et la pochette de l'album aussi, hein, qui représente une photo devant un magasin qui vend d'un côté des Dr. Martins et de l'autre des sous-vêtements de stripteaseuse, et il pose avec son fils. Les artistes du punk rock qui savent se mettre en scène, tout comme Patti Smith quand elle est prise en photo par Robert Mapplethorpe.
The wall is high, the black barn, the babe in my arms in her swaddling clothes and under the sun. That the sky will split and the planets will shift. We'll of my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cause as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born. It was dawn and the storm settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit at the gas, in the lit a match, in the void wind flash in the sky. As the bats with their baby vane faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. Some will make it go crack. Some.
Patti Smith en 1975 déjà, Horses, chemise blanche, la veste sur l'épaule, photo Robert Mapplethorpe. Patti Smith qu'on considère comme la prêtresse du punk, alors qu'elle dit qu'elle n'a jamais voulu être la prêtresse du punk. Elle est poète au départ, elle fait de la poésie et elle a eu l'idée de mettre de la musique sur ses textes pour être entendue par un plus grand nombre de personnes.
On entend bien, on discerne bien cette voix qui n'est pas très musicale quand même. C'est le parfait exemple d'artiste qui n'aurait jamais pu émerger sans cette mouvance punk. On lui aurait jamais donné la chance d'enregistrer un disque. Vous connaissez cette photo de Robert Mapplethorpe en noir et blanc. L'album s'appelle Horses. Horse. Il est où le petit cheval, Laurence?
Il est sur la veste.
Il est sur sur le badge. Mm-hmm. Mais il y a peu de gens qui le remarquent. Cette chanson de Kimberly qu'on a entendue. C'est très autobiographique en fait, parce que Patti Smith, il parle de sa maman et de ses frères et sœurs, et de cette vie qu'elle a laissée pour partir à la ville. Je trouve que en écoutant Patti Smith, après avoir entendu les Bad Brains et le Clash, on a toute la richesse du punk. C'est pas forcément des gens qui hurlent dans un micro et des guitares électriques dissonantes.
Et c'est vrai que à nouveau, elle cite le Clash. Elle dit « J'ai vraiment vu le futur de la musique à ce moment-là. » On y revient.
C'est une phrase célèbre de Patti Smith. On a l'impression de tourner en boucle et de tourner en rond, mais Patti Smith, en voyant le Clash, a dit à tout le monde :« J'ai vu le futur du rock. C'est eux, quoi. »
Patti Smith qui établit un lien entre le folk rock littéraire de Bob Dylan et l'électricité tous azimuts incarnée par le Velvet Underground, écrivez-vous. Elles sont peu nombreuses les femmes dans le punk.
Alors c'est ça qui est important de signaler aussi.
C'est un mouvement qui est macho, qui est pourquoi
Patti Smith a donné envie à beaucoup de femmes de chanter, de jouer, de monter un groupe. Hein. La bio de Vive, la chanteuse des Sliss, est récemment parue. Elle raconte combien c'était important le disque de Patti Smith. On est en 76, hein, on est juste avant 77. Enfin, une femme qui pouvait dire quelque chose sans être... on va dire commandé ou guidé par un homme derrière. C'est important aussi. Là aussi, c'est ça le punk, c'est-à-dire fais ce que tu as envie et prends une guitare, en l'occurrence celle de Lenny Kay, mais vas-y, t'as pas besoin de quelqu'un pour y aller. Patti Smith est l'une des rares femmes, et à l'opposé, elle est beaucoup moins féminine que Blondie, mais elles appartiennent exactement à la même scène, et c'est les deux icônes de ce milieu des années 70 et du punk rock, parce que là encore, dans le public, ce sont tous les gens qui vont au Ramones, et le lendemain ils vont au Patti Smith, il y a une logique quoi.
Et puis dans ce mouvement punk, eh bien, on trouve peut-être les prémices d'une certaine musique électronique. Il y avait d'abord Divo dans cette bande passante avec I Can't Get No Satisfaction sur l'album Are We Not Men We Are Divo 1978, peut-être le groupe le plus satirique du mouvement punk rock. Et puis à l'instant Suicide avec Rock Rider 1977 sur l'album Dream Baby. Non, l'album ne s'appelle pas Dream Baby, mais il s'appelle Suicide.
Oui, et puis la chanson s'appelle Ghost Rider, comme le héros de bande dessinée.
Et ça, là, c'est peut-être pour le coup le groupe, j'avais envie de dire, le plus violent quand même.
Alors voilà, je sais pas,
c'est
si
quand même une personnalité particulière.
Je sais pas si on s'en rend compte, ils étaient deux, hein, Alan Vega au micro, qui nous a quitté il y a 2 ans, Martin Reeve au clavier, un clavier acheté dans un supermarché, une dizaine de dollars. Et en fait, on s'est quand même bien rendu compte que c'était très très répétitif et très agressif et un peu énervant quand même. Alors il faut se l'imaginer en concert. Suicide, c'est l'autre groupe dont le chanteur essayait d'agresser pour faire réagir le public. C'est-à-dire que le principe d'Alan Vega, comme celui d'Iggy Pop qu'on a raconté il y a une demi-heure, c'était...
D'ailleurs, ils étaient fans hein, d'Iggy Pop. C'est Iggy Pop qui leur a donné envie de se produire sur
scène. Il y a cette anecdote que Suicide a commencé à faire des happenings, mais alors ils ne savaient vraiment pas quoi faire, juste faire de la musique et inviter les copains pour venir les voir jouer. Exactement comme les Psychedelic Stooges au tout début. Et en fait, Suicide, Martin et Alan vont assister à un concert des Stooges à New York quand ils seront en train d'enregistrer avec John Cale leur premier album. Et là, il a un déclic, il dit bah, « évidemment, c'est ça qu'il faut faire, il faut que j'aille encore plus dans la provocation ». Mais pour les gens qui ont lu Antonin Artaud, par exemple, c'est impossible de ne pas penser au théâtre à son double. C'est-à-dire, le public, il n'est pas là pour assister, il est pour vivre une expérience. Et avec ces groupes-là, on sent bien que le public, il devait être un peu énervé. Et quand en plus, Alan Vega s'approche de vous avec le micro, ce qui en 69-110 était... tout bonnement scandaleux, hein. Il était obligé de réagir.
Et puis ce qui a dû être scandaleux ou en tout cas choquant, c'est cette pochette quand elle est sortie. Aujourd'hui, on est totalement habitué à ce mot suicide écrit en lettres de sang, mais franchement, ça va très loin.
Elle était tellement choquante qu'elle a été interdite dans bon nombre de pays. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont mis une photo du groupe, au Canada, il y a quasiment qu'en France et qu'en Europe qu'elle est sortie comme ça. Hein.
On dit un mot sur Divo aussi qu'on écoutait précédemment. Ce sont des agitateurs plus que des musiciens qui combine images et sons, écrivez-vous Christian Hudlin.
Et qui n'avaient pas crédité le morceau des Rolling Stones sur leur disque. Je ne sais pas du tout ce qu'en a pensé Mick Jagger et Keith Richards. Voilà, on voit bien qu'ils ont complètement déstructuré le morceau. Ils ont rien inventé parce que c'est une reprise, mais ils le livrent d'une façon tellement différente et tellement robotique, tellement folle, on va dire, que c'est une vraie claque.
Et tout l'album n'est malgré tout pas recommandable.
Ça dépend pour qui.
Voici The Libertines dans cette sélection punk. Recevoir un mauvais coup, The Libertines, en 2002, un disque qui restera comme l'un des meilleurs albums de punk rock du troisième millénaire, et le fait qu'il ait été produit par Mick Jones, du Clash donc, n'est bien évidemment pas un hasard, écrivez-vous. Pourtant, cet album, quand il est sorti, tout le monde n'a pas succombé à cette enfilade de clashitude, je cite, toutes plus niaises et besogneuses les unes que les autres. Malgré tout, The Libertines, comme Peter Doherty, voilà, est un groupe punk.
Il n'y a qu'à aller voir sur scène, j'irai pour s'en apercevoir. Il y a deux choses, c'est le cliché de Pete Doherty, Junkie, Là, on est dans un peu la mythologie punk déglingue. Mais de l'autre côté, il y a une plume extraordinaire. Et je pèse mes mots, on est du niveau de Ray Davies des Kings. Je vais juste citer la première phrase de cette chanson qu'on vient d'écouter. All animals we are round the bench in the park. Voilà, là, le niveau d'écriture du mec, et toute la chanson est comme ça, tout l'album est comme ça. Et vous avez dit, il y a un ex-clash à la production. C'est une merveille, quoi. Je ne peux pas dire autre chose que c'est une merveille, il faut l'écouter.
Voilà, c'était peut-être pas le dernier titre de cette sélection spéciale de la bande passante, mais en tout cas, merci mille fois d'avoir été là, Christian Audine. Je rappelle ce livre, ça s'appelle Punk, Punk's Not Dead, les 100 albums cultes. Merci mille fois. J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les parasites à voter pour moi, disait Coluche en 1981 quand il s'est présenté pour l'élection présidentielle. Berruyer Noir, président, Coluche, punk, anarchiste, c'est une autre histoire. Ou pas, à lire ce livre de Christian Eudlin, Punk's Not Dead, 100 albums cultes en librairie maintenant. La page Facebook de La Bande Passante si vous souhaitez réagir, ou musique.rfi.fr. Enfin, retrouvez Alain Pilot en compagnie du duo américain The Sparks. Lundi prochain, bonne fin de semaine, portez-vous bien. L'épopée.